Le journal de George Fox 1685-1690 dernières années à Londres, est mort page 3 quelque temps après la réunion annuelle, je me rendis chez mon fils Mead dans l'Essex, et restai chez lui plusieurs semaines, visitant souvent la réunion des amis qui se tenait près de là, et parfois à Barking. Après y avoir été quelque temps, j'allai visiter les amis à Walsham Abbey, Hoddesdon, Enfield, South Street, Fort Greene et Winchmore Hill, où j'eus plusieurs réunions très utiles, le Seigneur ouvrant par moi bien des choses profondes et importantes, pour éclairer l'entendement des chercheurs et édifier ceux qui avaient été rassemblés dans la vérité, et les y affermir. Au septième mois, je retournai à Londres, ayant été presque 3 mois à la campagne pour ma santé, qui était très altérée, j'avais à peine la force de rester pendant toute la durée d'une réunion, et souvent, après une réunion, j'étais heureux de pouvoir m'étendre sur un lit. Pourtant, cette faiblesse du corps ne me détourna pas du service du Seigneur, mais je continuai à travailler dans et hors des réunions à l'œuvre du Seigneur, selon qu'il m'en donnait l'occasion et la capacité. Je n'avais pas été longtemps à Londres lorsqu'un grand poids vint sur moi, et le Seigneur me donna une vision des grandes agitations, troubles, révolutions et changements qui survinrent peu après. Dans le sentiment de ces troubles et sous la conduite de l'Esprit du Seigneur, j'écrivis une épître générale aux amis pour les avertir de l'orage qui s'approche, afin qu'ils se retirent tous vers le Seigneur, en qui est la sécurité, comme suit, mes chers amis et frères partout, vous qui avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, et à qui il a donné le pouvoir de devenir ses fils et ses filles. En lui vous avez la vie et la paix, et dans son royaume éternel, qui est un royaume établi qui ne peut être ébranlé. Votre royaume est au-dessus de tout le monde et demeure dans sa puissance, et dans la justice et la joie dans le Saint-Esprit, royaume dans lequel ne peut entrer aucune injustice, ni l'esprit immonde et impur du diable dans ses instruments. Chers amis et frères, tous ceux qui sont dans la foi de Jésus, demeurez dans sa puissance. Celui à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre gouvernera les nations avec une verge de fer et les brisera comme un vase de potier, ceux qui ne se soumettent pas et n'obéissent pas à sa puissance. Sa voix ébranlera les cieux et la terre, afin que ce qui peut être ébranlé soit ôté, et que ce qui ne peut être ébranlé apparaisse. Demeurez en lui, et toutes choses concourront au bien de ceux qui l'aiment. Et maintenant, chers amis et frères, quoique ces vagues, ces orages et ces tempêtes soient dans le monde, vous pouvez tous apparaître comme les agneaux inoffensifs et innocents du Christ, marchant dans sa vérité pacifique, et demeurant dans la parole de puissance, de sagesse et de patience. Sa parole vous gardera au jour des épreuves et des tentations qui vont venir sur le monde entier, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Car la parole de Dieu était avant le monde, et toutes choses ont été faites par elle. C'est une parole éprouvée, qui a donné au peuple de Dieu, en tous les âges, sagesse, puissance et patience. Assurez-vous donc que votre demeure et votre marche soient en Christ Jésus, qui est appelé la parole de Dieu, et dans sa puissance qui est au-dessus de tout. Attachez vos affections aux choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu, notez à ces choses qui sont en haut, où le Christ est assis, et non à celles qui sont en bas, qui changeront et passeront. Béni soit le Seigneur Dieu, qui, par son bras éternel et sa puissance, s'est assemblé un peuple, et a conservé les siens fidèles à lui-même au travers de nombreux troubles, épreuves et tentations. Sa puissance et sa semence, le Christ, sont au-dessus de tout, et en lui vous avez la vie et la paix avec Dieu. Ainsi que tous se courbent en lui et voient votre salut, lui qui est le premier et le dernier, et l'Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous préserve et vous garde tous en lui, votre arche et votre sanctuaire, car en lui vous êtes en sécurité au-dessus de tous les flots, orages et tempêtes, car il était avant qu'il ne soit, et il sera quand ils auront tous disparu. George Fox, Londres, le 17 au jour du 8 mois, 1688. À cette époque, de grandes épreuves et de grands poids vinrent sur moi, comme cela était d'ordinaire arrivé avant de grandes révolutions et des changements de gouvernement, et mes forces m'abandonnèrent, si bien que je chancelais et j'étais prêt à tomber en marchant dans les rues, et enfin je ne pus plus sortir du tout, tant j'étais faible pendant assez longtemps, jusqu'à ce que je sentisse la puissance du Seigneur jaillir par-dessus tout, et que j'eusse reçu de lui l'assurance qu'il préserverait son peuple fidèle à lui-même à travers toutes choses. Pendant le temps où je restais à l'intérieur, j'écrivis un texte montrant « Moïse comme serviteur fut fidèle dans toute sa maison, dans l'Ancien Testament, et Christ comme fils est au-dessus de sa maison dans le Nouveau Testament. La maison d'Israël était appelée la vigne de Dieu, en Ésaïe 5:7, et tous les Israélites étaient appelés la maison d'Israël. Israël signifie un prince avec Dieu, et un qui prévaut sur les hommes. » Gênesis 32:28. Quand Pierre prêcha Christ à la maison d'Israël, il dit « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce même Jésus que vous avez crucifié. » Actes 2:36. Ainsi ils étaient tous appelés la maison d'Israël. Et il est dit, Moï a été fidèle dans toute sa maison, c'est-à-dire cette maison d'Israël, comme serviteur, pour rendre témoignage des choses qui devaient être dites ensuite. Mais Christ, comme fils, est au-dessus de sa propre maison, et cette maison, c'est nous, si nous retenons jusqu'à la fin une ferme assurance et la joie de l'espérance. HBR 3, 5, 6. Il est montré ici que Moïse fut fidèle dans toute sa maison, comme serviteur, c'est-à-dire dans la maison d'Israël, dans l'Ancien Testament. Mais Christ Jésus, le Fils de Dieu, est au-dessus de sa maison dans son Nouveau Testament et son Alliance, et tous ses vrais croyants font partie de sa maison. L'apôtre dit aux Éphésiens, qui étaient une église du Christ, qu'ils étaient un concitoyen des saints et gens de la maison de Dieu. Éph 2:19. Et les saints étaient appelés la maison de la foi, Gal 7:10. Pierre, dans son épître générale, dit à l'église du Christ qu'ils étaient une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 1 Pierre 2:9. Et que, comme des pierres vivantes, ils étaient édifiés pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Verset 5. L'apôtre dit à l'église du Christ à Corinthe, si notre maison terrestre, cette tente, est détruite, nous avons un édifice qui est de Dieu, une maison non faite de main d'homme éternelle dans les cieux. 2 Corinthiens 5:1. Et Christ dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble point, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, une demeure est un lieu d'habitation de séjour, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14:1-3. Le psalmiste dit, « Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel prospéreront dans les parvis de notre Dieu, ils porteront encore des fruits dans la vieillesse, ils seront pleins de sève et verdoyants. » Psaume 92:13-14. Et encore, la sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toujours. Psaume 93:5. Ésaïe aussi dit par voie de prophétie, « Il arrivera, dans les derniers jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera affermie au sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. » Ésaïe 2:2. N'est-ce pas une grande maison? Cette montagne n'est-elle pas le Christ, qui est au-dessus de sa maison dans le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance, vers cette montagne et cette maison affluent, en ces derniers jours, tous les enfants du Nouveau Testament ou de la Nouvelle Alliance, de sorte que s'accomplit ce qu'Ésaïe avait prophétisé. Car il dit, « Beaucoup de peuples iront et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, il nous enseignera ses voies, et nous marcherons dans ses sentiers. » Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera juge entre les nations, et arbitre d'un grand nombre de peuples, de leurs épées ils forgeront des socs de charrues, et de leurs lances des serpes, une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ô maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Ésaïe 2, 3-5. Ici vous pouvez voir que ceux qui viennent à la montagne de la maison de Dieu, et à l'enseignement de Dieu doivent marcher dans la lumière du Seigneur, oui, la maison de Jacob. Jacob signifie un supplantateur, il supplantera l'impur Ésaü, qui est haï, et Jacob est aimé. Or ces deux naissances doivent être connues intérieurement. Ceux qui marchent dans la lumière du Seigneur, et viennent à Christ, la montagne de la maison du Seigneur, établie au-dessus de toute montagne et colline, transforment leurs épées en socs de charrues, et leurs lances en serpes. Et en Christ, cette montagne et cette maison du Seigneur, il n'y a ni lance ni épée pour se blesser les uns les autres. Christ, le Fils de Dieu, est au-dessus de sa maison et de sa grande famille, les enfants de la lumière qui croient en la lumière et y marchent, les enfants du jour du Christ, son saint et royal sacerdoce, qui offre à Dieu, par lui, un sacrifice spirituel. Tous ceux-là sont de la maison du Christ, de l'homme spirituel. Ils sont nés de Dieu et conduits par son esprit. Ils sont de la maison et de la famille du Seigneur des seigneurs et du Roi des rois, dont il est le chef. Et ils sont de la maisonnée de la foi sainte, divine, pure et précieuse, dont Christ est l'auteur et le consommateur. Et ceux qui sont de la maison du Fils sont purs, justes et saints, et ne peuvent rien faire contre la vérité, mais pour elle, dans leurs paroles, leur vie et leur conduite. Et ils sont ainsi une race élue, une nation sainte, un peuple acquis, afin d'annoncer les louanges de celui qui les a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ce sont les pierres vivantes du Christ qui édifient une maison spirituelle, sur laquelle lui, le Christ l'homme spirituel, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs règne. George Fox, Londres, le 10 mois, 1688. Quelque temps après cela, mon corps continuant d'être faible, je partis avec mon fils Meade pour sa maison dans l'Essex, où je restai quelques semaines. Pendant ce temps, j'écrivis beaucoup de choses relatives au service de la vérité, certaines furent imprimées peu après, d'autres circulèrent en manuscrit, et parmi d'autres choses quelques lignes dans ce sens, que tandis que les hommes se disputent ici-bas des trônes, le Christ est sur son trône, et tous ses saints anges sont autour de lui, lui qui est le commencement et la fin, le premier et le dernier au-dessus de tout. Et que le Seigneur se fera une voie et se ménagera une place à lui-même et à ceux qui sont nés de son esprit, qui sont les enfants de la Jérusalem céleste, pour rentrer chez leur mère libre. J'écrivis aussi quelques mots au sujet des enseignants du monde et de la vacuité de leur enseignement, comme suit. Ce qu'on appelle la chrétienté ne vivent-ils pas à parler des paroles du Christ, des apôtres et des prophètes, et de la lettre des Écritures? Et leurs prêtres ne servent-ils pas la lettre, lisent la Bible, avec leur propre conception de ce que signifient les mots, pour de l'argent, alors que les saintes Écritures ont été données gratuitement par Dieu, par le Christ, par les prophètes et par les apôtres? Pourtant l'apôtre a dit, « La lettre tue mais l'esprit vivifie. » 2 Cor 3:6. Les vrais ministres du Nouveau Testament ne sont pas ministres de la lettre, mais de l'esprit. Ils sèment pour l'esprit, et de l'esprit ils récoltent la vie éternelle. Mais le fait que les gens passent du temps sur de vieux auteurs, en parlant d'eux et de la lettre extérieure, ne nourrit pas leurs âmes. Car parler de nourriture et de vêtements ne vêt pas le corps, ni ne le nourrit. De même, leurs âmes et leurs esprits ne sont ni nourris ni revêtus, à moins qu'ils n'aient le pain et l'eau de vie venant du ciel pour les nourrir, et la justice du Christ pour les vêtir. Parler des choses extérieures et des choses spirituelles sans les posséder peut affamer à la fois leur corps et leurs âmes. N'éteignez donc pas l'Esprit de Dieu, qui vous conduira à être diligent en toutes choses. Avec cela, j'écrivis un autre court texte, montrant le tort qu'ils ont fait et le danger où ils se sont engagés, ce qui détournait les gens de la manifestation intérieure du Christ dans le cœur. Les Juifs étaient commandés par la loi de Dieu de ne pas déplacer la borne extérieure. 2:19-14. Ceux qui faisaient cela, ou qui faisaient errer les aveugles, étaient maudits dans l'Ancienne Alliance. 2:27-17. Dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre a dit, « Qu'il soit maudit celui qui prêche un autre évangile que celui qu'il a prêché. » Galates 1:8. L'évangile qu'il a prêché était la puissance de Dieu conduisant au salut pour quiconque croit. Romains 16. Et l'évangile prêché à Abraham était que, dans sa semence, toutes les nations et toutes les familles de la terre seraient bénies. Afin de conduire les hommes à cet état béni, Dieu répand son esprit sur toute chair, et Christ éclaire tout homme venant dans le monde. Et la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes et enseigne les chrétiens, les vrais croyants en Christ. Et Dieu écrit sa loi dans le cœur des vrais chrétiens et la met dans leur esprit, afin qu'ils puissent tous connaître le Seigneur, du plus grand au plus petit, et il met sa parole dans leur cœur pour obéir et accomplir, et l'onction au-dedans d'eux, de sorte qu'ils n'ont pas besoin. Or tous ceux qui détournent les gens de la lumière, de l'esprit, de la grâce, de la parole et de l'onction intérieure, les éloignent de la borne céleste de leur héritage éternel, les rendent aveugles et font errer les aveugles hors de la voie vivante menant à leur maison éternelle dans les cieux, et loin de la nouvelle Jérusalem céleste. Ainsi ils sont maudits, ceux qui font errer les aveugles hors de leur chemin, et les éloignent de leur borne céleste. George Fox j'écrivit aussi un texte pour montrer, par des exemples tirés des Saintes Écritures, que beaucoup des saints hommes et prophètes de Dieu, et des apôtres du Christ, étaient laboureurs et artisans, afin que les gens puissent voir combien les enseignants du monde sont aujourd'hui différents d'eux. Le juste Abel était un berger, gardien de brebis, Gênesis 4:2. Noé était laboureur, et c'était un homme juste et intègre dans sa génération, marchant avec Dieu, Genèse 9:26-9. Abraham le père des fidèles était laboureur et avait de grands troupeaux de bétail, le juste Lot était laboureur et avait de grands troupeaux et des bêtes, Genèse 13:5. Isaac était laboureur et avait de grands troupeaux et bétail, et des réserves de blé, Genèse 26:12-14. Et la promesse était avec Isaac, car le Seigneur dit à Abraham, « C'est d'Isaac que sera appelée ta descendance. » Gênesis 21:12, Jacob était laboureur et ses fils gardiens de troupeaux de bétail, Gênesis 46:32-34, et Dieu aima Jacob. Moïse gardait des brebis, Exode 3:1. Le Seigneur lui parla alors qu'il gardait des brebis, Exode 3:4, et l'envoya vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte le peuple de Dieu ou ses brebis. Par la main et la puissance du Seigneur, lui et Aaron son frère les firent sortir d'Égypte, terre d'angoisse, de servitude, de ténèbres et de perplexité. Et Moïse conduisit le peuple du Seigneur, ou ses brebis, 40 ans dans le désert. Il fut un humble berger de Dieu, et garda son grand troupeau de brebis, quoique certaines d'entre elles fussent galeuses de la lèpre des contestations et des murmures, et furent détruites dans le désert. David, bien qu'il en soit venu plus tard à être roi, était gardien des brebis de son père dans le désert. 1 Samuel 17:15 et 17:28. Le Seigneur l'appela des bergeries pour paître ses brebis, la maison d'Israël, et les défendre contre les loups, ours et lions spirituels, et il le fit jusqu'au but visé, établissant un homme selon le cœur de Dieu. Élisée était laboureur, 1 Roi 19:19. Il fut appelé loin de la charrue pour enseigner au peuple de Dieu, les enfants d'Israël, à labourer la jachère de leur cœur, afin qu'ils produisent des semences et des fruits pour Dieu leur Créateur. La parole de l'Éternel vint à Amos lorsqu'il était parmi les bergers de Tekoa. Amos 1:1. Amatsia, le prêtre de Beisel, dit à Amos, ne prophétise plus à Beisel car c'est le sanctuaire du roi et c'est la cour du roi. Amos 7:13. Amos répondit, je n'étais pas prophète ni fils de prophète, mais j'étais berger et je cueillais des fruits de sycomore, et l'Éternel me prit comme je suivais le troupeau. Et l'Éternel me dit, va prophétie à mon peuple Israël. Amos 7:14-15. Ici vous pouvez voir que le Seigneur se servit d'un pauvre homme et l'appela à quitter le troupeau extérieur et la cueillette des fruits extérieurs pour recueillir ses fruits à lui et poursuivre son peuple ou son troupeau, les enfants d'Israël. Christ appela Pierre et André son frère alors qu'ils jetaient leurs filets dans la mer car ils étaient pêcheurs, et il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Matthieu 4:18-19. Christ appela de même Jacques et Jean son frère, lorsqu'ils étaient dans une barque avec Zébédée leur père, raccommodant leurs filets, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Matthieu 4:21-22. Il leur donna la puissance, un filet qui tiendra et n'aura pas besoin d'être réparé, et fit d'eux des pêcheurs d'hommes, pour les pêcher hors de la grande mer, le monde de la méchanceté. Nous lisons que lorsque Pierre, Thomas, Nathanaël, les fils de Zébédée et d'autres disciples allèrent pêcher ensemble, cette nuit-là ils ne prirent rien. Le matin, Jésus apparut et dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous réussirez. » Ils le firent et prirent tant de poissons qu'ils ne pouvaient les tirer dans la barque. Alors, quand l'un des autres disciples dit à Pierre, « C'est le Seigneur », Pierre, entendant cela, ceignit sur lui sa tunique de pêcheur et se jeta dans la mer pour aller vers Jésus. Jean 21:2-7. C'était après la résurrection du Christ. Ainsi, vous pouvez voir ici que Pierre n'avait pas quitté sa tunique de pêcheur pendant tout le temps où il avait prêché avant la mort du Christ. Jésus vit Matthieu assis au bureau des taxes et lui dit « Suis-moi ». Et il se leva et le suivit. Matthieu 9:9. Et Christ employa Matthieu à rassembler son peuple, qui était dispersé loin de Dieu, un autre genre de trésor que les taxes extérieures des Romains. Luc était médecin, et le Christ fit de lui un médecin spirituel, ce qui était meilleur qu'un médecin extérieur. Paul était fabricant de tentes, et, étant du même métier qu'Aquilas et Priscille, il demeura avec eux à Corinthe et travailla pour gagner sa vie, car leur métier était de fabriquer des tentes. Acte 18:3. George Fox Gooses, le premier mois, 1688, c'était alors un temps de beaucoup de commérage, et les gens étaient trop occupés dans leur esprit, et passaient leur temps à entendre et à raconter des nouvelles. Pour leur montrer la vanité de cela et les en détourner, j'écrivis les lignes suivantes. Dans la région basse, dans la vie futile, toutes les nouvelles sont incertaines, il n'y a rien de stable, mais dans la région plus élevée, dans le royaume du Christ, toutes choses sont stables et sûres, et les nouvelles toujours bonnes et certaines. Car le Christ, à qui toute puissance a été donnée au ciel et sur la terre, règne dans les royaumes des hommes, et lui, qui hérite les nations et possède, par sa puissance et sa lumière divine, les extrémités de la terre, gouverne toutes les nations avec une verge de fer et les brise comme des vases de potier, les vases de déshonneur et les vases percés qui ne retiennent pas son eau vive de la vie, et il préserve ses vases élus de miséricorde et d'honneur. Sa puissance est certaine et ne change pas, par elle il déplace les montagnes et les collines, et ébranle les cieux et la terre. Les vases percés et déshonorants, les collines et les montagnes, ainsi que les anciens cieux et la terre, doivent tous être ébranlés, ôtés et brisés en morceaux, bien qu'ils ne voient pas cela se produire ni ne voient celui qui le fait. Mais les élus et les fidèles le voient et le savent, eux et connaissent celui dont la puissance ne peut être ébranlée et ne change pas. George Fox, le 5e jour du premier mois, 1688-9, vers le milieu du premier mois, 1688-9, j'allais à Londres, le Parlement siégeant alors et s'occupant du bélève indulgence. Bien que j'eusse le corps faible et que je ne puisse me déplacer aisément dans la ville, j'avais un si grand souci, en mon esprit, pour la vérité et pour les amis, que pendant de nombreux jours, j'assistais continuellement, avec d'autres, à la chambre du Parlement, travaillant auprès des membres, afin que la chose fût faite d'une manière ample et efficace. Je poursuivis ces services et d'autres jusqu'à la fin du second mois. Alors, fort épuisé par un travail continuel, je sortis de la ville pour un court temps, jusqu'à Southgate et les environs. Pendant que j'y étais, j'écrivis une lettre à Pieter Hendrik, un ami à Amsterdam, dans laquelle j'enfermais une épître aux amis de Dantzig, en Pologne, qui à cette époque subissaient une grande persécution. Je leur écrivis pour les encourager et les fortifier dans leur témoignage, et pour les consoler dans leur souffrance pour la vérité. J'écrivis aussi un texte à leurs persécuteurs, les magistrats de Dantzig, leur exposant le mal de la persécution, les exhortant à une modération chrétienne et à faire aux autres en matière de religion ce qu'ils voudraient qu'on leur fasse, à Piet Hendrik à Amsterdam et aux amis de Dantzig qui sont sous la persécution. Chers amis P.H., avec mon amour pour vous et votre épouse J. Klaus et J., Roloff et tout le reste des amis partout en Christ Jésus qui règne sur toutes choses. Je me réjouis d'apprendre que les amis vont bien dans toutes ces provinces et ces lieux, partout sauf à Dantzig, et que vous avez été si diligente à diffuser mes écrits pour le renforcement des amis. J'ai récemment imprimé la vie de William Caton, mais je n'ai pas rassemblé ses livres. Je pense vous en envoyer quelques-uns, que vous pourrez traduire et imprimer si vous le voulez. Ils pourront être utiles parmi les amis, surtout à ceux qui l'ont connu. Concernant les amis de Dantzig, que le Seigneur a soutenus jusqu'à ce jour par son bras éternel et sa puissance, j'espère que par ce même bras et cette même puissance il les soutiendra, et qu'en cela ils sentiront sa bienheureuse présence avec eux dans toutes leurs souffrances, lui qui est au-dessus de la cruauté de leurs persécuteurs, qui les laisse à peine respirer extérieurement ou intérieurement, dans l'air commun de leur sol natal. Ce qui montre leur barbarie, leur inhumanité et leur conduite non chrétienne, et qu'il leur manque, parmi eux, le conseil d'un Gamaliel, leurs actes sont en dessous de la loi de Dieu. Qui est faire aux autres ce qu'ils voudraient que d'autres leur fassent, Dieu ne bénira pas les actes de tels gens. Cependant, je désire que les amis aient égard à la puissance du Seigneur qui est au-dessus de tout, qu'ils soient vaillants pour sa vérité, et qu'ils demeurent sur le roc et le fondement, Christ Jésus, qui demeure ferme au temps de la chaleur de la persécution, si intense sur vous qu'il ne vous permette ni vos maisons pour y travailler et y dormir, ni de vous y réunir ou d'y servir Dieu. Le Seigneur voit tous ses prétendants et leurs prétentions. Regardez donc par-dessus tout vers lui, qui est capable de traiter avec eux et de les rétribuer selon leurs œuvres. Que Dieu Tout-Puissant vous préserve tous en Christ Jésus, en qui vous avez repos, vie et paix. Amen. George Fox Southgate, le 28 au jour du 2e mois, 1689 au magistrat de Dantzig, Christian Schroeder, président du Conseil, Emmanuel Dilger, N. Gadeken et N. Fratrus, député du Conseil, et le reste des magistrats et des prêtres. Nous avons vu votre ordonnance et votre souffle de persécution contre ce petit troupeau, les agneaux du Christ, qui vivent sous votre juridiction dans la ville de Dantzig, et que vous avez emprisonné et banni deux personnes, par le bourreau, hors du gouvernement de votre ville, et que vous menacez d'en faire autant à d'autres, avec de grands châtiments s'ils reviennent. De même, vous menacez de châtiments ceux qui louent des maisons aux agneaux, s'ils leur laissent leur maison soit pour y habiter, soit pour s'y réunir afin de servir et d'adorer le Seigneur qui les a faits. En vérité, j'ai une profonde douleur, tant pour vos magistrats que pour vos prêtres, qui portent le nom de chrétiens et manifestent de telles actions immorales, inhumaines et non chrétiennes, des actions qui sont au-dessous de la loi royale de Dieu, qui est faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent. Croiriez-vous que ce fût moral, humain ou chrétien, ou conforme à la loi de Dieu, si le roi de Pologne, qui est d'une autre religion que vous, vous bannissait de votre ville par le bourreau, et vous appelait meurtrier d'âme, pourriez-vous dire que cela n'est pas conforme à la loi de Dieu ? Vous faire ce que vous vouliez faire aux autres. Si vous dites que vous avez l'épée, la corne et la puissance, béni soit le Seigneur qui a raccourci votre épée, votre puissance et votre corne, de sorte qu'elles ne s'étendent pas au-delà de votre juridiction de Dantzig, et vous ne savez pas combien de temps Dieu pourra vous tolérer avec votre corne, votre puissance et votre épée. Nous sommes certains que vous n'avez pas l'esprit ni la pensée du Christ, et l'apôtre a dit, « Ceux qui n'ont pas l'esprit de Christ ne lui appartiennent pas. » Rome 8:9. Et le Christ dit à Pierre, « Remets ton épée à sa place, ce qui tire l'épée pour lui, afin de le défendre, lui et son culte et sa foi doivent périr par l'épée. » Après cela, ce qui était avant que l'Esprit fût donné à Pierre, Pierre et les apôtres ne tirèrent jamais l'épée extérieure, mais dirent que leurs armes étaient spirituelles et non charnelles, et qu'ils ne luttaient pas contre la chair et le sang. Le Christ n'a jamais donné un tel commandement, qu'on bannisse par le bourreau quiconque n'est pas de leur religion ou ne veut pas la recevoir. N'êtes-vous pas pire que les Turcs, qui permettent plusieurs religions dans leur pays, oui, même des chrétiens, et qu'ils se réunissent paisiblement, oui, les autorités turques laissèrent nos amis, qui étaient captifs, se rassembler à Alger, et dire « c'est une bonne chose ». Vous êtes pire que ces peuples barbares de Salé, qui ne professent pas le christianisme, car vous professez le Christ en parole, mais vous le niez en action. Avez-vous jamais trouvé, soit dans l'Écriture soit dans l'Histoire, que des persécuteurs aient longtemps prospéré ? Vous êtes pire qu'eux-mêmes dans le pays du Mogol, où l'on dit qu'il permet 60 religions dans ses dominions, et beaucoup d'autres pourraient être mentionnés, vous êtes pire que tous en cruauté et en persécution du peuple de Dieu, uniquement parce qu'ils se réunissent au nom de Jésus, et servent et adorent Dieu leur Créateur. Non, ils ne doivent même pas respirer dans l'air naturel, ni spirituel, dans vos dominions. Je vous prie, d'où tenez-vous ces ordres, du Christ ou de ses apôtres? Ne professez-vous pas que les Écritures du Nouveau Testament sont votre règle? Mais, je vous prie, quelle Écriture avez-vous pour une telle pratique? Il est bon pour vous d'être humble, de faire justice, d'aimer la miséricorde, de rappeler chez eux vos bannis, et de les aimer et les chérir. Oui, quand bien même ce seraient vos ennemis, vous devez obéir aux commandements du Christ et les aimer. Je m'étonne de la manière dont vous, vos femmes et vos familles pouvez dormir paisiblement dans vos lits, vous qui commettez de tels actes cruels, sans craindre que le Seigneur ne vous fasse la même chose. Vous ne pouvez être sans sens ni sentiment, à moins d'être abandonné de Dieu et d'avoir la conscience cautérisée au fer rouge. Mais la charité chrétienne espère que vous n'êtes pas tous dans cet état, qu'il peut encore y avoir chez certains d'entre vous un relâchement ou une reconsidération de vos actes, selon la loi de Dieu ou selon son évangile, de la part de celui qui désire votre bien et votre salut temporel et éternel, et non votre destruction. Amen. George Fox Middlesex, le 28 jour du 2e mois, 1689. Pierre, vous pouvez traduire ceci en haut allemand et leur envoyer la lettre, et vous pouvez l'imprimer, si vous le souhaitez, et la diffuser. Traduisez en haut allemand la partie de la lettre qui est destinée aux amis et envoyez-la leur. Après être resté à la campagne environ 3 semaines, je retournai à Londres un peu avant la réunion annuelle, qui avait lieu au 3e mois de cette année. Ce fut une réunion très solennelle et importante, le Seigneur, comme autrefois, visitant son peuple et honorant l'assemblée de sa glorieuse présence, pour la grande satisfaction et consolation des amis. Lorsque les affaires de la réunion furent terminées, il me fut donné d'ajouter quelques lignes à l'épître envoyée de la réunion aux amis, de la manière suivante. « Chers amis et frères, vous qui avez connu le bras éternel et la puissance du Seigneur, qui vous ont préservé sur le roc et le fondement céleste, et qui avez bâti votre maison sur le roc céleste, vous avez connu bien des vents, des tempêtes et des orages qui se sont levés de la mer d'où la bête sortit, et bien des tempêtes furieuses suscitées par des apostats de diverses sortes. Mais la semence qui écrase la tête du serpent, et qui est le fondement du peuple de Dieu, demeure ferme. Chers amis et frères, bien qu'il y ait de grands ébranlements dans le monde, la puissance du Seigneur est au-dessus de tout, et son royaume ne peut être ébranlé. Ainsi, vous tous, enfants de Dieu, enfants de la lumière et héritiers de son royaume, demeurez dans votre habitation joyeux et paisible. Tenez-vous hors de toute passion, crêle et dispute au sujet des choses du monde. Ne posez les mains sur aucun homme, ni sur aucune chose, avec précipitation, afin d'éviter qu'il ne s'enfle d'un esprit temporaire qui s'évanouit, et qu'ainsi il ne vienne à la perte. Mais ayez égard à la puissance du Seigneur, qui tient ouvert votre œil céleste pour voir les choses du présent et de l'avenir, et c'est en cela que vous verrez et toucherez la parole de vie. Chers amis partout, ayez autorité sur vos propres esprits. Puisque Dieu vous a béni de ces choses extérieures, gardez-vous de mettre votre confiance en elles ou de tomber en dispute les uns avec les autres au sujet de ces choses extérieures d'en bas, qui passeront toutes. Mais vivez tous dans l'amour de Dieu, et dans cet amour vivez en paix avec Dieu et les uns avec les autres. Suivez les œuvres d'amour, et surmontez le mal par le bien envers tous, car quel bien ont fait tous les tinqueurs, gens qui réparent marmites et casseroles et les font résonner pour attirer l'attention, avec leurs cymbales et leurs airains retentissants. Ils ont toujours engendré la confusion, et n'ont jamais fait de bien en aucun âge, tintant de leurs cymbales et faisant résonner leurs airains pour entraîner les simples à les suivre, fabriquant de discours bruyants et élégants. Il est bon que tous les enfants de Dieu demeurent dans leur possession de la vie, et dans l'amour de Dieu qui est éternel. Quant à tous les tumultes du monde, et aux apostats de la vérité, la puissance du Seigneur est au-dessus de tous, Christ règne, et le Seigneur a dit, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Ésaïe 54:17. Amis, vous n'ignorez pas combien d'armes ont été forgées contre nous qui sommes fils et filles de Dieu, et comment le Seigneur les a contenues selon sa promesse, elles n'ont pas prospéré. Le Seigneur a dit, « Toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. » Ainsi Dieu a donné à ses enfants une telle puissance de condamner toutes les langues qui s'élèveront en jugement contre eux, et c'est là l'héritage des serviteurs du Seigneur, leur justice vient de moi, dit le Seigneur. Vous n'ignorez pas les nombreuses langues qui se sont élevées en jugement contre nous, oui, d'apostats et d'irrévérencieux, mais dans et avec la vérité, la puissance de Dieu, selon la promesse de Dieu, toute langue qui s'élève contre toi, tu la condamneras. Ce n'est pas une seule langue que vous condamnerez, mais toute langue qui s'élèvera en jugement contre vous, vous la condamnerez. Le Seigneur donne cette puissance à ses serviteurs et à ses enfants pour juger les mauvaises langues, et il retient les armes forgées contre eux, afin qu'elles ne prospèrent pas contre ses enfants qu'il a engendrés. Louange et honneur à son saint nom à jamais. Amen. George Fox. Peu après, la réunion annuelle commença à York. Pendant plusieurs années, Elle s'y était tenue à cause de l'étendue de ce comté et pour la commodité des amis des régions du Nord. Et parce que des dommages avaient été causés en ce lieu par certains qui s'étaient écartés de l'unité des amis, il me fut donné d'écrire quelques lignes à cette réunion pour les exhorter à demeurer dans un amour céleste pur, qui fait entrer dans la vraie unité et la conserve. C'était comme suit. Chers amis et frères en Christ Jésus, que le Seigneur, par son bras éternel et sa puissance, a préservé jusqu'à ce jour, marchez tous dans la puissance et l'Esprit de Dieu, qui sont au-dessus de tout, dans l'amour et l'unité, car l'amour surmonte, édifie et unit tous les membres du Christ à lui, le chef. L'amour tient hors de toute crêle et est de Dieu. L'amour, ou la charité, ne défaille jamais, mais tient l'esprit au-dessus de toutes choses extérieures et des crêles au sujet des choses extérieures. Il surmonte le mal et chasse toutes les fausses craintes. Il est de Dieu et unit ensemble tous les cœurs de son peuple dans la joie céleste, l'harmonie et l'unité. Que le Dieu d'amour vous préserve tous et vous affermisse en Christ Jésus, votre vie et votre salut, en qui vous avez toute paix avec Dieu. Marchez donc en lui, afin que vous soyez ordonnés dans sa sagesse céleste et pacifique, à la gloire de Dieu et à la consolation les uns des autres. Amen. George Fox, Londres, le 27 jour du 3 mois, 1689. Étant très fatigué et épuisé par de nombreuses grandes réunions et beaucoup d'affaires avec les amis durant la réunion annuelle, et constatant que ma santé était fort altérée, je quittai la ville avec ma fille Rose pour leur maison de campagne près de Kingston, et j'y restai la plus grande partie du reste de l'été. Pendant ce temps, je rendis parfois visite aux amis à Kingston et j'écrivis plusieurs choses au service de la vérité et des amis. L'une était une épître aux amis de la Barbade, comme suit, à tous les amis de la Barbade qui sont convaincus de la vérité de Dieu. Je désire que vous viviez et marchiez dans sa vérité paisible, et que vous montriez des preuves que vous êtes des enfants de la lumière et de la vérité, car la sagesse céleste, douce et pacifique, est justifiée par ses enfants. Mais la dispute, la crêle, l'entêtement, le fait de mettre à nu la nudité et les faiblesses les uns des autres, ne sont pas la pratique des enfants de la sagesse céleste mais de ceux de Cham, ni ne procèdent de l'Esprit de Christ, pas davantage de ceux qui se mordent et se déchirent les uns les autres, cela vient d'un esprit dévorant, non de l'Esprit de Jésus, qui couvre ce qui n'est pas convenable et qui peut pardonner. Mes amis, vous professez cette vérité qui dépasse toutes les voies du monde, veillez donc à les surpasser par la sagesse céleste, douce, qui se laisse aisément fléchir, car la sagesse du monde n'est pas facile à persuader, et parfois ne se laisse pas persuader du tout. Je vous prie de veiller à surpasser le monde en sagesse, en vertu, en bonté, en amour qui l'emporte sur la haine, en douceur, humilité, sobriété, civilité et modestie, en tempérance et patience, et dans toute moralité et humanité, qui n'agira en rien au-dessous de l'homme ni de manière indigne d'un homme. Faites paraître le vrai christianisme, et que vous êtes des croyants convertis et transportés en Christ, demeurant dans l'amour de Dieu qui supporte tout, endure tout, ne s'enfle pas d'orgueil et n'en vit pas. Car ceux qui sont hors de cet amour de Dieu et de l'amour chrétien, les uns pour les autres ne sont rien d'autre qu'une cymbale retentissante et un airain qui résonne, ils sont mécontents, murmureurs et plaignants, pleins de doutes, de questions et de fausses jalousies. Tenez cet esprit hors du camp de Dieu. Car ne lisez-vous pas dans les Écritures, tant du Nouveau que de l'Ancien Testament, que la fin de tels gens fut la misère, donc, dans l'amour de Dieu, édifiez-vous les uns les autres, car l'amour édifie le corps de Christ, et il commande à ses croyants d'aimer leurs ennemis et de s'aimer les uns les autres, c'est à cela qu'on reconnaît qu'ils sont disciples de Christ. Mais vivre dans l'envie, la crêle et la haine est une marque qu'ils ne sont pas disciples de Christ, car celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort, et quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Mais ceux qui aiment leurs compagnons de foi sont passés de la mort à la vie. 1 Jean 3, 14, 15. Et si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu? Et nous avons de Dieu ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 4, 20, 21. Donc, aimez-vous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et la haine est du diable, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Tous sont enfants de Dieu par la création, donc, en cet état, ils doivent aimer leurs prochains comme eux-mêmes, et faire à tous les hommes ce qu'ils voudraient qu'on leur fasse. Deuxièmement, Dieu ayant répandu son esprit sur toute chair, c'est-à-dire sur tous les hommes et toutes les femmes, tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, ils sont dans la communion de l'Évangile éternel et dans l'unité de l'esprit, le lien de la paix. Ceux qui sortent de cette unité, hors du lien de la paix, et ne le gardent pas, rompent la paix du roi des rois, mais ceux qui demeurent dans l'unité et la communion de l'esprit, et marchent dans la lumière, ont communion les uns avec les autres, et avec le Père et le Fils. Ce n'est pas quiconque parle de la lumière du monde, de justice, de Christ et de Dieu, mais celui qui fait la volonté de Dieu. Ainsi, mes amis, efforcez-vous de vous surpasser les uns les autres en amour, en vertu, en bonne vie et en conduite, et efforcez-vous tous d'être d'un seul esprit, d'un seul cœur et d'un seul jugement dans l'Esprit de Dieu, car en Christ tous sont un et sont en paix avec lui. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous garde en lui, votre roc et votre fondement, qui est céleste et demeure ferme, afin que vous soyez vaillants pour la vérité sur la terre, pour le Seigneur et son nom glorieux, afin que vous le serviez tous en votre génération, et dans sa nouvelle création en Jésus-Christ. Amen. Et maintenant que vous êtes entrés en si grande faveur auprès des magistrats et des autorités qu'ils vous laissent servir comme constables, etc., sans prêter serment ni faire aucun serment, ici, la doctrine et le commandement de Christ, ainsi que ceux de son apôtre, sont observés et mis en pratique. Je désire donc que vous redoubliez de diligence dans vos fonctions, en faisant ce qui est juste, vrai et droit, afin que vous excelliez et surpassiez tous ceux qui sont liés ou tenus par serment d'accomplir leurs fonctions, et vous pouvez le faire sur votre oui et votre non, ainsi dites et ainsi faites, selon la doctrine et le commandement de Christ. Car Adam et Ève, en désobéissant au commandement de Dieu, sont tombés sous la condamnation, et ceux qui désobéissent au commandement de Christ en prêtant des serments et en jurant s'engagent dans le mal et tombent sous la condamnation. Matthieu 5, 34 et Jacques 5, 12. Mon amour dans le Seigneur est pour vous tous. George Fox Kingston upon Thames, le 10 du 5 mois, 1688. Je restai à Kingston jusqu'au commencement du 7e mois, où non seulement des amis vinrent me visiter, mais aussi quelques personnes considérables du monde, avec lesquelles j'eus des discussions sur les choses de Dieu. Puis, quittant Kingston, je me rendis à Londres par eau, visitant les amis en chemin et m'arrêtant à la réunion de Rammesmith sur ma route. Ayant recouvré quelques forces en étant à la campagne, lorsque j'arrivai à Londres, j'allai de réunion en réunion, travaillant avec diligence à l'œuvre du Seigneur, et ouvrant les mystères divins des choses célestes, comme Dieu, par son esprit, me les ouvrait. Mais je trouvai que mon corps ne supporterait pas longtemps la ville, aussi, après avoir voyagé parmi les amis là environ un mois, j'allai à Tottenham Red Cross, puis de là à la maison de campagne d'Edwardman près de Winchmoor Hill, et à Enfield, passant 3 semaines parmi les amis du voisinage, ayant des réunions en tous ces lieux. Puis, étant un peu rafraîchi à la campagne, je retournai à Londres, où je demeurai, travaillant à l'œuvre du ministère, jusqu'au milieu du 9e mois. À ce moment-là, je partis avec mon fils Mead pour sa maison dans l'Essex, et j'y vécus tout l'hiver. Durant ce temps, je ne sortais guère, sinon pour aller à la réunion à laquelle ma famille assistait, qui était à environ un demi-mille de là, mais j'avais souvent des réunions dans la maison avec la famille et les amis qui y venaient. J'écrivis aussi beaucoup de choses pendant que j'y étais, dont quelques-unes suivent. L'une était une épître aux réunions trimestrielles et annuelles des amis en Pennsylvanie, en Nouvelle-Angleterre, en Virginie, au Maryland, dans le New Jersey, en Caroline, et dans d'autres colonies en Amérique. Laquelle était comme suit. Mes chers amis et frères dans le Seigneur Jésus-Christ, vous qui en croyant en sa lumière, êtes devenus enfants de sa lumière et de son jour, je désire que vous marchiez tous dans la lumière et dans le jour, et que vous gardiez la fête de Christ, notre Pâque, qui a été immolée pour nous, non avec du vieux levain, ni avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais que tout cela soit purgé afin que vous soyez une Pâque nouvelle, gardant la fête de Christ, notre Pâque, avec le pain sans levain de la sincérité. Qu'on ne trouve point de pain levé dans vos maisons, ni dans vos réunions, ni dans le camp de Dieu ou la maison de la foi, qui est la maison de Christ, mais tout ce vieux levain aigre, qui rend les cœurs des gens aigres et les enflamme les uns contre les autres, doit être purgé du camp de Dieu et tenu dehors. Car la fête de Christ, notre Pâque, doit être gardée dans la nouvelle alliance avec son pain de vie céleste sans levain. La fête des Juifs dans l'Ancien Testament se gardait avec du pain sans levain extérieur, et maintenant, dans le Nouveau Testament, au jour de l'Évangile, notre fête doit être gardée avec le pain céleste sans levain de la sincérité et de la vérité. Ainsi, amis, je désire que vous considériez sérieusement et que vous gardiez cette fête que l'apôtre a ordonnée à l'Église de Christ de garder. Ne voyez-vous pas la chrétienté, ainsi appelée, garder ses fêtes avec le pain levé de la malice et de la méchanceté? Cette malice les rend si aigres et fait brûler leurs cœurs les uns contre les autres qu'ils se sont détruits et se détruisent encore les uns les autres au sujet de la religion. Que tous vivent donc dans l'amour de Dieu qui maintient au-dessus de l'amour du monde, afin qu'aucun de vos cœurs ne soit étouffé, surchargé et rendu malade par ces choses extérieures ou par les soucis du monde qui passeront. Mais pensez au monde et à la vie qui n'ont pas de fin, afin que vous en soyez héritiers. Et amis, vous devez vous efforcer d'exceller tous, tant les professants que les irrévérencieux, en moralité, en humanité et en christianisme, en modestie, sobriété et modération, et dans une vie et une conduite bonne, pieuse et juste. manifestant les fruits de l'Esprit de Dieu, et que vous êtes les enfants du Dieu vivant, enfants de lumière et de jour, et non de la nuit. Et servez Dieu dans la nouveauté de vie, car c'est la vie, et une marche vivante dans la vérité, qui doit répondre au témoignage de Dieu en tout, afin qu'il voie nos bonnes œuvres et glorifie notre Père qui est aux cieux. Soyez donc vaillants pour la sainte et pure vérité de Dieu, et répandez-la au loin parmi les professants comme parmi les irrévérencieux et parmi les indiens. Et vous devez écrire une fois l'an, depuis toutes vos réunions annuelles, à la réunion annuelle d'ici, au sujet de votre diligence dans la vérité, de sa diffusion, et de la manière dont les gens la reçoivent, tant les professants que les profanes, et les indiens, et au sujet de la paix de l'Église de Christ parmi vous. Car béni soit le Seigneur, la vérité gagne du terrain en ces contrées, beaucoup deviennent très bienveillants envers les amis, et la puissance et la semence du Seigneur sont au-dessus de tout. Que le Dieu Tout-Puissant y garde tout son peuple pour sa gloire. Amen. George Fox Gooses, le 28 du 11 mois, 1689. Pendant que j'étais dans la ville, j'avais, en mon esprit, un souci au sujet d'un double danger qui accompagnait certains qui professaient la vérité. L'un était que les jeunes gens se précipitaient dans les modes du monde, l'autre, que les personnes âgées s'enfonçaient dans la terre. Et ce souci revenant maintenant de nouveau avec poids sur moi, je fus poussé à publier ce qui suit comme réprimande pour de tels, et comme exhortation et avertissement à tous les amis, afin qu'ils se gardent de ces pièges et s'en tiennent éloignés. À tous ceux qui professent la vérité de Dieu, je désire que vous y marchiez humblement, car lorsque le Seigneur m'appela pour la première fois, il me fit voir que les jeunes gens grandissaient ensemble dans la vanité et les modes du monde, et que les personnes âgées descendaient vers la terre, la ratissant pour l'amasser, et vis-à-vis de l'un comme de l'autre, je devais être un étranger. Et maintenant, amis, je vois trop de jeunes gens qui professent la vérité grandir dans les modes du monde, et trop de parents les y encourager, et parmi les anciens, certains déclinent vers le bas et ratissent après la terre. Prenez donc garde de ne pas creuser vos tombes tandis que vous êtes encore vivants extérieurement, et de ne pas vous charger d'une épaisse argile. Rab 2:6. Car si vous n'avez pas pouvoir sur l'esprit terrestre, sur ce qui mène à un esprit vain, aux modes du monde et à la terre, alors, bien que la pluie soit souvent tombée sur vos champs, vous ne produirez que des chardons, des ronces et des épines qui sont pour le feu. De tels deviendront des esprits cassants, chagrins et irritables, qui ne supporteront pas la doctrine céleste, les avertissements, exhortations et réprimandes du Saint-Esprit, ou de l'Esprit céleste de Dieu, qui vous rendraient conformes à la mort de Christ et à son image, afin que vous ayez communion avec lui dans sa résurrection. Il est donc bon que tous fléchissent au nom de Jésus, leur Sauveur, afin que tous le confessent à la gloire de Dieu le Père. Car j'ai porté un souci, sentant le danger des jeunes qui vont dans les modes du monde, et des vieux qui vont dans la terre, et de beaucoup qui vont dans une liberté relâchée et fausse, jusqu'à ce qu'enfin ils sortent tout à fait dans l'esprit du monde, comme certains l'ont fait. La maison de tels a été bâtie sur le sable du rivage, et non sur Christ le roc, aussi sont-ils bientôt de nouveau dans le monde, sous prétexte de liberté de conscience. Mais ce n'est pas une conscience pure, ni dans l'Esprit de Dieu, ni en Jésus-Christ, car dans la liberté de l'Esprit se trouve l'unité qui est le lien de la paix, et tous sont un en Jésus-Christ en qui est la vraie liberté, et cela n'est pas du monde car lui n'est pas du monde. Ainsi tous doivent demeurer fermes en lui, comme ils l'ont reçu, car en lui il y a la paix, lui qui est le prince de la paix, mais dans le monde il y a du trouble. Car l'esprit du monde est un esprit troublé, mais l'esprit de Christ est un esprit pacifique, dans lequel le Dieu Tout-Puissant préserve tous les fidèles. Amen. George Fox Gooses, le 1er du 2 mois, 1690. J'écrivis une autre lettre pendant que j'étais ici, au sujet de l'étendard qu'Ésaïe avait prophétisé que le Seigneur dresserait pour les nations, et que je montrais être Christ. En voici une copie. Le Seigneur a dit, « On ne fera point de mal et on ne détruira point sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur comme les eaux couvrent la mer. » Isaïe 11:9. Et en ce jour-là, il y aura une racine de Jessé qui se dressera comme un étendard pour les peuples, les nations la rechercheront, et son repos sera glorieux. Isaïe 11:10. Et il régnera sur les nations, et en lui les nations espéreront. Romains 15:12. Cet étendard est Christ, dont le prophète a prophétisé, prophétie dont l'apôtre, ministre des nations, montre qu'elle s'est accomplie dans le Nouveau Testament. En ce jour de Christ, Ésaïe dit, « Le Seigneur étendra encore sa main une seconde fois pour racheter le reste de son peuple qui sera demeuré, de la Syrie et de l'Égypte, etc. » Et il dressera un étendard pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et recueillera les dispersés de Juda des quatre coins de la terre. Isaïe 11:12. Cela est au jour de Christ, et de son évangile de vie et de salut, qui est prêché à toute créature sous le ciel, lui qui éclaire tout homme et toute femme dans le monde, juifs et nations, afin que par sa lumière céleste et divine, ils voient Christ, leur étendard et le chef de leur salut. Ainsi Christ est un seul étendard pour les juifs comme pour les nations. Ésaïe a dit, « Le Rédempteur viendra à Sion. » Isaïe 59, 20. « Et voici mon alliance avec eux, dit le Seigneur, mon esprit qui est sur toi, Christ, et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne s'éloigneront point de ta bouche, ni de la bouche de ta descendance, ni de la bouche de ta descendance, dit le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. » Isaïe 59, 21. « Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » Isaïe 61 « Et les nations viendront à ta lumière », verset 3 « Et l'abondance de la mer se convertira à toi », verset 5 « La mer c'est le monde, le Seigneur sera ta lumière éternelle », verset 20 « Et tu appelleras tes murs salut et tes portes louanges », verset 18 « Et le Seigneur a dit, je rendrai glorieux le lieu de mes pieds », verset 13 « Le ciel est son trône, et la terre son marchepied », chapitre 66 1 « Et celui qui met sa confiance en moi », dit le Seigneur, « possédera le pays et héritera de ma montagne sainte », chapitre 57 13 Cette montagne est établie au-dessus de toutes les montagnes et collines. Isaïe 2, 2. Le Seigneur dit, en parlant de Christ, « J'ai mis mon esprit sur lui, il fera paraître le jugement pour les nations. » Isaïe 42, 1. « Je t'ai établi pour être l'alliance du peuple, la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison les captifs, et ceux qui sont assis dans les ténèbres, hors de la prison. Je suis le Seigneur, tel est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images taillées. » Verset 6-8 « Ainsi Christ la lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée, et les nations sont venues à la lumière de Christ. » Cette prophétie d'Ésaïe concernant Christ, beaucoup des nations en voient l'accomplissement, que le salut est venu aux nations, Rome 11-11. Dieu a donné sa gloire à son Fils, et Christ a dit, « La gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée à savoir à ses croyants et disciples afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Jean 17-22 Ici vous pouvez voir les promesses et les prophéties accomplies en Jésus-Christ, que Dieu a donné comme étendard tant aux Juifs qu'aux nations, et comme chef de leur salut. Et il éclaire tous les hommes et toutes les femmes dans le monde, afin que par sa lumière céleste et divine, ils voient Christ, le Seigneur venu du ciel, leur chef et étendard, et qu'ils se confient en lui, leur vainqueur, qui brise la tête du serpent et détruit le diable et ses œuvres, et Christ et ses disciples vainquent le dragon, la bête et le faux prophète. Ainsi tous les Juifs, nations et chrétiens, qui en viennent à croire en Christ, doivent se tenir à leur étendard, Christ, qui est aussi le chef de leur salut, au-dessus de tous les étendards et chefs d'ici-bas, car il est d'en haut, que tous donc se confient en lui, car il est certain et capable de sauver parfaitement. Il est le même étendard et chef aujourd'hui qu'hier, et ainsi pour toujours, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le Seigneur des seigneurs et le roi de tous les rois sur la terre. Et il n'y a rien de sûr en quoi l'on puisse se confier au-dessous de Jésus-Christ qui est d'en haut. Vous voyez, dans les Écritures qu'il y avait beaucoup de voies et de religions parmi les païens, comme il y avait beaucoup de sectes parmi les Juifs quand Christ vint, et maintenant il y a beaucoup de sectes ou de religions parmi les chrétiens, qui croient d'après les Écritures qu'il est venu, comme les Juifs croyaient qu'il devait venir. Mais ceux qui ferment les yeux et bouchent les oreilles à la lumière de Christ ne sont pas prêts de voir Christ, qui les a éclairés, comme leur étendard et le chef de leur salut. Ils ne voient pas avec l'œil céleste, ni n'entendent avec l'oreille céleste, pour voir et entendre leur étendard céleste et le chef de leur salut, afin qu'il les convertisse et les guérisse, afin qu'ils puissent le suivre et être de son cinq ans, ses soldats célestes, à qui il donne des armes et une armure spirituelle, le casque du salut, la cuirasse de la justice, l'armure de... Il revêt aussi ses soldats de fin lin, blanc et pur sa justice, et il les chausse de l'évangile éternel de paix, la puissance de Dieu, vêtements et chaussures qui ne vieilliront jamais. Et tous ceux qui sont chaussés de l'Évangile éternel, la puissance de Dieu, ne vieilliront jamais, ne s'useront pas, mais ils résisteront à toutes les tempêtes et tous les orages dans le monde. Ceux qui sont chaussés de l'Évangile, la puissance de Dieu, peuvent en lui fouler aux pieds serpents, vipères et scorpions, et toutes les bêtes venimeuses sur la terre, ainsi que toutes les épines, ronces, broussailles, chardons, rochers tranchants et montagnes, et ne seront jamais blessés ni n'useront jamais leurs chaussures, car leurs pieds étaient toujours beaux sur les montagnes. Moïse, chef, serviteur du Seigneur, dit au peuple d'Israël, « Je vous ai conduit 40 ans dans le désert, vos vêtements ne se sont point usés sur vous, et ta chaussure ne s'est point usée à ton pied. » 2:29-5 Ici vous pouvez voir que, dans l'Ancien Testament, les vêtements et les chaussures des Juifs ne vieillissaient pas et ne s'usaient pas. Et ceux qui sont les disciples de Christ, qu'ils chaussent de son évangile éternel de paix et revêtent de son fin lin, sa justice et armes de son armure, sont vêtus, chaussés et armés de ce qui ne se dégrade jamais, ne vieillit pas, ne se corrode pas, ne rouille pas, ne se corrompt pas et ne s'émousse pas. Or tous, qu'ils soient chrétiens, juifs ou nations qui haïssent la lumière de Christ, fermant les yeux et bouchent les oreilles à celle-ci, ne sont pas prêts de voir Christ, leur étendard et le chef de leur salut, mais sont aveugles. De même qu'aucun chef extérieur n'enrôlerait une troupe d'hommes aveugles et sourds, pour les vêtir et les armer d'une armure extérieure, ainsi ceux qui sont aveugles et sourds, dont les yeux sont fermés et les oreilles bouchées à la lumière céleste de Christ, il n'est pas prêt de les vêtir de son fin lin ni de les armer de son armure céleste et spirituelle. Ils ne sont pas non plus susceptibles d'être disciplinés spirituellement et célestement, ni de voir et connaître son saint camp spirituel et vivant, ni de le suivre tant qu'ils sont sourds et aveugles et haïssent sa lumière, qui est la vie en Christ. Car c'est la lumière qui brille dans le cœur qui donne la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Jésus-Christ, lui qui est l'étendard et le chef du salut des hommes, et qui a conduit, et conduit encore, beaucoup de fils à la gloire, louange, honneur et gloire au Seigneur au-dessus de tout, lui qui vit à jamais. Amen. George Fox Gooses. Le 14 du 2 mois, 1690, une semaine après cela, je retournais à Londres, et après un court séjour, j'allais visiter les amis à Kingston, où je ne restais pas longtemps. Je revins à Londres et demeurai à l'œuvre du Seigneur jusqu'après la réunion annuelle, qui eut lieu au quatrième mois de cette année-là. La bonté habituelle du Seigneur y fut manifestée, on jouit de sa présence bénie, et l'on ressentit avec amour sa puissance céleste. Sa puissance ouvrit les cœurs de son peuple à lui, et ses trésors divins de vie et de sagesse en eux et pour eux. Par quoi beaucoup de choses utiles et nécessaires, relatives à la sûreté des amis et à l'honneur et à la prospérité de la vérité, furent traitées avec gravité et concluses unanimement. Après la réunion, j'écrivis le texte suivant aux amis, pour être ajouté à l'épître que la réunion annuelle envoya dans les différents comtés. Tous les amis partout, qui vivent pour Dieu par Jésus-Christ et sont des membres vivants de Christ, la sainte tête, soyez tranquilles et tenez-vous immobiles dans le camp du Seigneur, de sainteté et de justice, et en lui voyez le salut de Dieu et votre vie éternelle, votre repos et votre paix. En lui, vous pouvez sentir et voir que la puissance du Seigneur est au-dessus de tout, et comment le Seigneur agit dans sa puissance, gouvernant les nations avec sa verge de fer, et brisant, dans les nations les vieux vases et citernes qui fuient, en morceaux comme des vases de potier, qui ne peuvent contenir son eau vive de vie, eux qui se sont égarés loin de l'Esprit. Mais béni soit le Seigneur Dieu du ciel et de la terre, qui par son bras éternel et sa puissance, a établi tout son peuple sur le roc vivant, saint et sur le fondement qui demeure ferme, lui qui les a attirés par son Esprit vers son Fils, et les a rassemblés dans le nom de Jésus-Christ, son Fils unique, plein de grâce et de vérité, à qui toute puissance dans le ciel et sur la terre a été donnée. Son nom est au-dessus de tout nom sous tout le ciel, et tous ses membres vivants savent qu'il n'y a de salut donné par aucun autre nom sous tout le ciel que par le nom de Jésus, et lui, leur salut et leur tête vivant, est ressenti au milieu de dans sa lumière, sa vie, son esprit, sa grâce et sa vérité, et dans sa parole de patience, de sagesse, de puissance, lui qui est le prophète de son peuple, que Dieu a suscité dans son nouveau testament et son alliance pour leur ouvrir les chaux, et leur berger vivant qu'il est acquis, racheté. Christ le vivant nourrit ses brebis vivantes dans ses pâturages vivants de vie. Et ces brebis vivantes connaissent la voie de leur berger vivant, avec son pain et son eau vivant, et le suivent, et elles ne suivront aucun des mercenaires du monde, ni les voleurs, ni les brigands, ni les grimpeurs qui sont hors de Christ la porte. De même, les enfants vivants de Christ connaissent Christ, l'évêque de leurs âmes, qui les surveille de son œil céleste et spirituel, afin qu'ils soient préservés dans son bercail de vie et qu'ils n'en sortent plus. Ils connaissent aussi Christ, leur saint prêtre, qui par la grâce de Dieu a goûté la mort pour eux et pour tout homme, et qui est une propitiation pour leurs péchés, et non seulement pour les leurs, mais pour les péchés du monde entier, et par l'unique offrande de lui-même, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Un tel grand prêtre convient aux brebis de Christ, dans sa nouvelle alliance et son testament, saint, innocent, séparé des pécheurs, et élevé au-dessus des cieux. Il n'a pas été fait prêtre selon l'ordre d'Aaron, avec ses dîmes et ses offrandes, mais il met fin à toutes ces choses, les ayant abolies, et il est fait grand prêtre selon la puissance d'une vie impérissable, lui qui vit toujours pour intercéder pour son peuple, et qui est capable de sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il est l'unique médiateur saint entre Dieu et l'homme, qui sanctifie son peuple, son Église dont il est la tête, et les présente à Dieu sans tache, ni ride, ni défaut, ni rien de semblable. Et il fait d'eux un sacerdoce saint et royal, pour offrir des sacrifices spirituels et saints, agréables à Dieu par Jésus-Christ, qui est roi de tous les rois et seigneur de tous les seigneurs sur la terre. Ainsi un roi saint et céleste, à qui toute puissance dans le ciel et sur la terre a été donnée, et qui règne dans tous les cœurs de ses brebis et de ses agneaux par sa sainte foi divine et précieuse, qui est gardée dans toutes les consciences pures de son peuple, de laquelle foi sainte Christ le Saint est l'auteur et le consommateur. Par cette foi sainte, tous les justes vivent, et dans cette foi sainte, divine et précieuse, tous les justes et les saints ont l'unité, et par elle ils éteignent tous les traits enflammés de Satan, et ils ont accès au Dieu pur, en quoi il lui plaise. Christ qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux, dans son Nouveau Testament et sa Nouvelle Alliance, est le ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, et non l'homme. Ainsi, tous les agneaux et toutes les brebis de Christ doivent sentir ce saint ministre dans leur temple et leur sanctuaire, qui leur dispense des choses spirituelles, saintes et célestes dans leur sanctuaire et leur tabernacle. Car tous les tabernacles et sanctuaires qui sont bâtis ou dressés par l'homme, les hommes leur font des ministres, et de tels ministres sont des hommes et par des hommes, avec leurs sanctuaires et tabernacles mondains, dressés par les hommes de main d'hommes. Et maintenant, chers amis et frères partout, qui êtes du troupeau de Christ, Christ notre Pâque a été immolé pour nous. Gardons donc tous cette fête céleste de notre Pâque dans son Nouveau Testament et son Alliance, non avec du vieux levain, ni de la malice ni de la méchanceté, mais que tout cela soit purgé avec le vieux pain levé aigre, afin que tous deviennent une pâte nouvelle, et ainsi gardons cette fête céleste de Christ, notre Pâque céleste, avec le pain sans levain de la sincérité et de la vérité. Amen. George Fox, je restais en ville entre 3 semaines et 1 mois après la réunion annuelle, puis j'allais à Tottenham Rye Cross, où il y avait une réunion le premier jour, à laquelle j'assistais, puis je me rendis chez Edward Mann à Fort Greene près de Winchmore Hill, et le premier jour suivant, à la réunion d'Enfield, où le Seigneur me donna de nombreuses précieuses ouvertures pour déclarer au peuple. Ensuite, allant et venant parmi les amis du voisinage, je visitais souvent les réunions à Chesin, Waltham Abbey, Enfield, Tottenham et Winchmore Hill. Le Seigneur était avec moi et ouvrait beaucoup de vérités profondes et importantes, des mystères divins et célestes, à son peuple par mon moyen, pour leur grand rafraîchissement et ma joie. Après quelque temps, je me rendis à Hertford pour y visiter les amis, et j'étais à leur réunion un premier jour. Et ayant quelque chose de plus particulier sur moi pour les anciens amis de cet endroit, j'eus une réunion avec certains d'entre eux le lendemain, et je leur communiquai ce que le Seigneur m'avait donné pour eux. Puis, passant à Weir, je fis un petit séjour parmi les amis là-bas, et j'assistai à leur réunion. Après quoi, je retournai parmi les amis du côté d'Edmonton et de Tottenham et j'assistai aux réunions, en revenant à Londres à la fin du 7e mois. Je demeurai à Londres jusqu'au commencement du 9e mois, étant continuellement occupé à l'œuvre du Seigneur, soit dans des réunions publiques, ouvrant aux gens le chemin de la vérité et édifiant et affermissant les amis en elle, soit dans d'autres services relatifs à l'Église de Dieu. Car le Parlement siégeait alors, et ayant devant lui un projet de loi concernant les serments, et un autre concernant les mariages clandestins, plusieurs amis assistèrent à la Chambre pour faire en sorte que ces projets de loi soient rédigés de manière à ne pas nuire aux amis. Dans ce service aussi j'aidais, assistant au Parlement et discutant la question avec plusieurs des membres. Après être resté plus d'un mois à Londres et m'être épuisé dans ces services, j'allais à Tottenham et quelque temps après à Fort Greene. En ces lieux, je demeurai plusieurs semaines, visitant les réunions des amis aux environs, à Tottenham, Enfield et Winchmore Hill. En ce temps-là, plusieurs choses vinrent sur moi écrire. L'une d'elles était une épître aux amis dans le ministère, comme suit. « Tous les amis dans le ministère partout à qui Dieu a donné un don de ministère, et qui ont coutume de voyager de haut en bas dans le don du ministère, ne cachez pas votre talent, ne mettez pas votre lumière sous le boisseau, ne vous chargez pas, et ne vous empêtrez pas dans les affaires de ce monde. Car les soldats naturels ne doivent pas se charger des affaires du monde, à plus forte raison les soldats de Christ, qui ne sont pas de ce monde, mais ils doivent avoir en vue les richesses et la gloire du monde qui est éternelle. » Réveillez donc le don de Dieu en vous, développez-le, et ne vous asseyez pas à la manière de Déma pour embrasser le présent monde qui aura une fin, de peur que vous ne deveniez idolâtre. Soyez vaillants pour la vérité de Dieu sur la terre, et répandez-la au loin dans la lumière du jour de Christ, vous qui avez cherché le royaume de Dieu et sa justice, et l'avez reçu et prêché, lequel consiste en justice, paix et joie dans le Saint-Esprit, comme des ministres capables de l'Esprit, semés pour l'Esprit, afin que de l'Esprit vous récoltiez la vie éternelle. Avancez dans l'Esprit, labourant avec lui dans l'espérance purifiante, et battant par la puissance et l'Esprit de Dieu, le blé hors de la balle de la corruption dans la même espérance. Car celui qui, depuis la charrue spirituelle, regarde en arrière vers le monde, n'est pas propre au royaume spirituel et éternel de Dieu, et n'est pas prêt d'y entrer en force comme le font les fidèles. Ainsi vous qui êtes réveillés à la justice et à la connaissance de la vérité, gardez-vous éveillés en elle, alors l'ennemi ne peut semer son ivraie dans votre champ. Car la vérité et la justice sont au-dessus de lui et existaient avant lui. Je désire que tous accomplissent leur ministère que le Seigneur Jésus-Christ leur a confié, et alors, par le sang ou la vie et le témoignage de Jésus, vous vaincrez l'ennemi qui s'y oppose au-dedans et au-dehors. Vous tous qui prêchez la vérité, faites-le comme elle est en Jésus, dans l'amour, et à tous ceux qui croient en Jésus et le reçoivent, il donne le pouvoir et l'autorité de devenir fils de Dieu et cohéritier avec Christ, qu'il appelle frère, et il leur donne l'eau de la vie, qui sera en eux une source jaillissant pour la vie éternelle, afin qu'ils arrosent les plantes spirituelles du Dieu vivant. Ainsi tous peuvent être des planteurs spirituels et des arroseurs spirituels, et voir, de l'œil spirituel, le Dieu éternel et immuable au-dessus de tout donner l'accroissement, lui qui est la fontaine infinie. Je désire que vous soyez gardés hors de tous les éléments vains du monde, qui est au-dessous de la région spirituelle, pour vous attacher à Christ la tête, et que vous vous teniez à lui, qui brise la tête de l'inimitié et était avant que l'inimitié fût, afin que vous soyez tous unis ensemble dans l'amour, dans votre tête, Christ, et que vous soyez ordonnés par sa sagesse céleste, douce et paisible, à la gloire de Dieu. Car tous ceux qui sont en Christ sont dans l'amour, la paix et l'unité. En lui ils sont forts et dans une pleine persuasion, et en lui, qui est le premier et le dernier, ils sont dans une résolution et une confiance céleste pour l'honneur et la gloire éternelle de Dieu. Amen. De la part de celui qui a été transporté dans le royaume de son cher Fils, avec tous ses saints, une salutation céleste. Et saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser d'amour qui ne manque jamais. George Fox Forgreen, le 25 du 9 mois, 1690 Back Next.